De vive voix. De vive voix, spécial JO, Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous dans De Vive Voix, mode culture et sport. Durant toute cette période des JO, nous conjuguons le muscle et la plume, la culture physique et la culture tout court. Pour ce deuxième épisode, notre invité c'est Charles Berling, l'acteur, metteur en scène et directeur de la scène nationale du théâtre Liberté Château-Vallon à Toulon, dans le sud de la France. Charles Berling est un passionné de rugby et de l'esprit de mêlée. Avec lui, on va parler culture populaire et sport collectif, des boussoles pour nous rassembler en ces temps parfois divisés. Et bien sûr, à tout moment, priorité au direct pour les JO, vous pourrez retrouver les journalistes du service des sports de RFI pour vous faire vivre les compétitions qui se jouent en temps réel. De vive voix spécial JO, c'est parti. Bonjour Charles Berling.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors avant de parler de votre passion pour le rugby, je voulais quand même avoir votre regard d'homme de spectacle, de directeur de théâtre sur la cérémonie d'ouverture des JO dont on a beaucoup, beaucoup parlé. Je vous vois déjà sourire, mise en scène par Thomas Joly. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ?
Ah ben, j'ai trouvé que c'était très, très bien. C'était très amusant et tout à fait festif, comme ça doit être. Et qu'en plus... Je trouvais que pour de mettre en scène la ville, c'est la première fois que ça se fait, c'était une excellente idée.
Ouais, voilà. Puis les polémiques, on les laisse tomber. Hein. Je pense qu'on en a suffisamment.
Oh non, voilà. Les polémiques, c'est normal. Bah, ça, c'est une... Oui, mais enfin bon, c'est toujours pareil. Hein, si on s'amuse un peu. Moi, quand j'ai porté la flamme, j'ai eu aussi des critiques parce que je me suis trop amusé. Bon, ben, génial.
Alors, ah ben alors, vous allez droit au but. Effectivement, vous aussi, acteur des JO, on va l'entendre, en mai dernier, vous étiez effectivement le dernier porteur de la flamme dans le Var. Vous avez allumé le chaudron olympique devant des milliers de personnes massées sur la place de la Liberté.
On lève la flamme et le décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1, 0, ça y est, on a Toulon dans le bar et on le vit ensemble, c'est synchro. Mesdames et messieurs, on vient de le vivre. Quel bonheur, quel choix. C'est ça, on l'a dit, un homme de spectacle, il sait faire le show. On a la chance de l'avoir, s'il vous plaît, faites du bruit pour Charles Berling.
Alors là... Là, Charles Berling, on vous voit en survêtement blanc, porter fièrement la flamme. Alors, honnêtement, vous étiez en transe, hein, à sauter partout. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête, là ?
Il ne se passe plus rien dans sa tête quand on est dans cette situation. Et je connais pourtant bien ma ville de Toulon. Et justement, avec le rugby, on a eu souvent des foules. Et moi-même, depuis que j'ai 14 ans, j'ai été parfois mêlé dans la rue à hurler, à être content d'une victoire. Et puis là c'est, enfin, quand on est du côté du chaudron, je dirais, ça boue à l'intérieur. Et c'est absolument... Les gens ont une joie, très communicative. Ça met une pression folle.
Ouais.
Alors, il faut se laisser aller à cette pression. Et puis voilà. Donc moi, j'ai eu envie de danser un peu mon parcours. C'est ce que j'ai fait. Mais c'était très joyeux. Et je dois dire que... je voyais des gens que je n'avais pas encore vus à Toulon. Vraiment, toute la ville est dehors.
Ouais, c'est ça.
C'est ça, c'est ce qui s'est passé à Paris.
À Paris,
là.
Ouais.
C'est ce qui s'était passé à Marseille. C'est-à-dire qu'il y a une liesse populaire qui est basée sur les valeurs du sport, donc de la paix. Donc, c'est merveilleux quand même. On
ne
va pas cracher là-dessus. Au contraire, on en profitait. Donc, à ce moment-là, moi, j'en ai profité. Je voyais tous ces enfants avec un air mais extrêmement épanoui.
Vous-même, vous aviez une tête d'enfant, hein, un regard d'enfant. Hein.
Ah oui. Mais je pense qu'on en est tous... cet été, on repart en enfance, et tant mieux, fait du bien, c'est-à-dire...
Surtout en ce moment.
Et c'est là où, pour moi, en plus, ça avait beaucoup de sens à Toulon, parce que c'est une ville où je défends beaucoup la culture là-bas, et donc l'art et la culture et le sport sont vraiment des très bons copains depuis le début, depuis très longtemps.
L'art, la culture et le sport, parce qu'on parlait du spectacle de la diversité, hein, pour la cérémonie d'ouverture des JO, mais vous, en tant que directeur de théâtre, c'est ce que vous faites aussi sur votre scène. Hein. C'est-à-dire que vous cassez les codes, il y a aussi bien du théâtre, de la danse, du clown, du cirque, on n'est pas cloisonné. Hein.
Oui, c'est ça. C'est ça qui est. D'ailleurs, c'est à l'image des Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques apportent au sport quelque chose qui est la règle de la diversité, la règle de l'égalité, de la solidarité avec tous les sports. C'est-à-dire qu'on se marre un peu, évidemment, mais on découvre des sports qu'on n'a pas l'habitude de voir pendant 4 ans.
Ouais.
Et donc cette diversité, cette façon de vouloir justement montrer, faire connaître, faire aimer même des artistes, par exemple, qu'on connaît peu, ben ça, ça fait partie de ma passion et je trouve que c'est très important et c'est ce qui se passe aux Jeux Olympiques. C'est pour ça que les Jeux ont une valeur spéciale, disons.
Ouais.
C'est du sport, c'est du sport à très haut niveau, mais en même temps, c'est vraiment pour tous les goûts et pour tous les sports. Donc, on vit ça toute l'année, nous, en défendant des artistes que parfois des gens ne connaissent pas, mais quand ils les découvrent, ils sont fous de joie.
Ouais.
Comme là, quand on voit le badminton, j'en passe. Je dirais une petite bémol, c'est que le karatédo a été supplanté, d'ailleurs au profit je ne sais plus quel. Oui, je regrette parce qu'il y a le judo, mais moi j'aime beaucoup le karatédo. Enfin, j'en pratique pas moi-même, mais parfois je fais des petits stages comme ça et je connais des karatékas qui le regrettent.
Ouais.
Parce que c'est quand même c'est comme le judo, c'est très beau le karaté.
Ouais. On parlera tout à l'heure de votre passion pour le rugby, surtout, évidemment. Sortir de l'entre-soi culturel aussi. Quelque part, l'image du théâtre, ça reste quand même assez fermé, assez élitiste. Il y a encore un mépris, quelque part, un peu de l'intelligentsia culturelle pour tout ce qui est sportif, ou ça bouge enfin un peu ?
Comment dirais-je ? Alors, vous dites le théâtre est élitiste. Regardez où se retrouve Thomas Joly. Bon, alors,
oui.
Enfin, c'est pas vous qui le dites d'ailleurs, mais il y a cette idée reçue comme quoi le théâtre, ça serait quelque chose d'assez lointain, de très élitiste, de très intello, de machin, etc., qui ne s'adresse pas aux gens. Ben, regardez, Thomas Joly est un pur produit du théâtre public. Eh ben, regardez ce qu'il fait. Donc, ça ne l'empêche pas de faire des shows pour 1 milliard de personnes. Donc, si ça, c'est pas faire des shows populaires, alors je sais pas de quoi on parle.
Ouais.
Donc, si vous voulez, moi, je défends depuis toujours, depuis que j'ai 14 ans dans ma ville, de monter des auteurs qui sont absolument magnifiques, même si parfois la pensée peut être complexe. Eh bien, tant mieux si le monde est complexe.
Mmh.
Donc, on va pas. C'est la simplification qui est dangereuse, qui est quelque chose de faux. Mais les gens adorent. Et moi, on a un théâtre qui est plein toute l'année. Les gens viennent de partout. Ils viennent de toutes les classes sociales et je m'en réjouis. Donc, c'est un travail, évidemment, parce que il faut toujours lutter contre un certain nombre d'idées reçues, comme quoi il faut pas être intelligent, il faut être con, comme quoi il faut pas aimer le beau, il faut aimer ce qui est dégueulasse. Enfin, vous voyez,
les raccourcis.
Je me bats en permanence pour. Et c'est vrai que, regardez, dans le sport, les gens admettent que, il y a justement des grands joueurs, comme nous, on a des grands acteurs, des grandes actrices, là, il y a des grandes joueuses, des grands joueurs, et ils disent pas, ils sont trop compliqués, mais c'est compliqué de devenir Kylian Mbappé, parce que c'est compliqué, c'est un art, quoi, c'est une façon de.
Vous regardez, les athlètes des JO comme des artistes aussi, comme des comédiens
C'est pas exactement la même chose,
oui.
Ça passe par une performance physique totale, et même si les actrices, les acteurs aussi font
des performances
vraiment physiques. Mais oui, il y a quelque chose comme le dépassement de soi, comme l'oubli de soi, comme on se fixe un objectif et on essaye d'aller le plus loin possible. Vous avez une représentation, c'est sûr que vous avez envie de tout transcender, de faire que. C'est-à-dire, il y a une chose qui est commune à une actrice, à un acteur ou à une joueuse, un joueur de haut niveau, c'est que quand ils se blessent, sur le moment, pendant la compétition, ils ne sentent rien. Et mettez un acteur sur scène et blessez-le, il continue à jouer.
Ouais.
Il ne s'en rend pas compte.
Ouais.
Et c'est pareil pour les joueurs, parce qu'il y a quelque chose qui est galvanisant, c'est un peu
ce dont on
parlait tout à l'heure sur la flamme. C'est-à-dire qu'on est en dehors de soi, en même temps on est soi-même, mais on est complètement traversé par la foule, par l'énergie humaine, c'est dingue. Et donc c'est pareil là, et puis moi je me réjouis de voir que les Jeux ont commencé, qu'en plus, souvent il y a beaucoup de gens qui dénigrent, et puis là, on se rend compte que c'est d'abord la fête, que c'est super populaire,
et
tout le monde est super content.
C'est ça.
Et donc de voir, c'est sûr, je dis que des banalités, comme tout le monde, mais c'est vrai que de les voir se transcender à ce point, de découvrir des athlètes qu'on connaissait moins, grâce à ces Jeux,
ouais,
de voir ça en France, de voir que, encore une fois, toutes les populations se retrouvent. Enfin, moi, je le voyais à Toulon et je le vois partout. C'est-à-dire que tout le monde est dans la rue pour dire on est ensemble, on a envie de vivre et on a envie aussi d'être joyeux, pas seulement de tirer la gueule et de dire que l'autre est un imbécile et pas soi.
Allez, soyons joyeux. Charles Berling, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants. Et là, on va parler aussi de votre passion pour le rugby et l'esprit de mêlée. On se retrouve dans quelques instants après Amadou et Mariam. C'est Mogolou sur RFI. À tout de suite.
Merci beaucoup. Tamara ibeko ye ibeko dan magolo ambe fe ka segi so ambanga fanu mbe fo ina chama kalande magolo ina chama famu
Mariam sur RFI, c'est Charles Berling, l'acteur, metteur en scène, directeur de la scène nationale du Théâtre Liberté Château-Vallon à Toulon, dans le sud de la France, notre invité dans De Vive Voix sur RFI. Charles Berling, bah allez, on parle de votre passion pour le ballon ovale. Vous comparez souvent une équipe de rugby à une troupe de théâtre, hein, c'est ça
hein? Oui, bien sûr, c'est tout à fait, c'est-à-dire c'est un travail d'équipe. Oui. Avant tout, donc il y a une besoin de solidarité, de comprendre où sont les niveaux, quelles sont les forces, les faiblesses, et à partir de là, par exemple, si vous mettez dans une équipe dans une équipe théâtrale, vous mettez que des très bons acteurs, mais qui peuvent pas être complémentaires les uns avec les autres, vous allez à la catastrophe. Oui. C'est exactement comme dans une équipe de rugby. Il suffit pas de mettre que des très 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 bons, vous payez très très cher pour faire une très bonne équipe. Il faut d'abord bien réfléchir à comment l'équilibre se fait entre ces gens.
Oui, mais mais on peut retrouver ça dans le foot. Pourquoi plus le rugby
J'ai pas dit qu'on pouvait pas le retrouver dans le foot. Moi, je et dans le handball, j'ai beaucoup pratiqué le handball aussi, par exemple. Quand j'étais plus jeune, j'adore ce sport, c'est extraordinaire cette façon de se jeter dans les buts. C'est quelque chose qui est très jouissif. Il y a une espèce d'élan comme ça, et puis le gars il se retrouve avant même la balle, il se retrouve dans les filets. Mais donc on peut l'adapter à tous les sports d'équipe,
ouais,
en fait.
Ouais.
Mais ça c'est vrai. Moi après je parle du rugby parce que le rugby a quelque chose où il y a physiquement une plus qu'au foot, plus que dans d'autres sports, il y a une forme d'intimité quoi entre les joueurs avec les adversaires. Il y a quelque chose d'incroyable qui se passe sur un terrain.
Bon, je ne demande pas si vous demande pas si vous étiez ultra heureux que l'équipe de France de rugby à 7 décroche la première médaille d'or. Hein,
merveilleux.
J'étais dans tous vos états.
Antoine Dupont qui est quand même c'est extraordinaire ce qu'il a fait. C'est-à-dire c'est quand même très différent hein, comme façon de jouer au rugby. Et là, j'étais vraiment très impressionné.
Alors, le Toulonnais que vous êtes est forcément supporter du RCT, le Rugby Club Toulonnais. Ça remonte vraiment à l'enfance chez vous
Oui, parce que ben justement, maintenant, j'y rencontre parfois Daniel Herrero qui est dans le coin, avec qui j'échange, parce que Daniel, moi j'aime beaucoup le rugby et je fais de l'art et de la culture, et lui, il fait beaucoup de rugby et il pratique aussi beaucoup l'art et la culture, c'est-à-dire c'est un artiste aussi.
Ah, ben
et on se retrouve souvent avec Daniel parce que c'est quelqu'un qui a, d'abord parle très bien du rugby, mais peut parler très 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 bien d'un spectacle. Ça fait plaisir quand il est là dans une salle et qu'il sort et qu'il vous regarde et qu'il dit « Putain, je l'ai pris comme ça, pris ton truc dans le plexus, c'est extraordinaire. » Donc ça, c'est vraiment une joie. Et Daniel Herrero, les Herrero, ils font partie, pour moi, de
la famille de Toulon.
C'est-à-dire, on était dans la rue, et puis c'était les belles années, les années 70. Après, ça a un peu plongé, et après, ça s'est revenu avec Mourad, là. Et puis, moi, j'étais content quand je suis revenu beaucoup plus dans ma ville à Toulon et que je m'occupais de ce théâtre. Il y avait le RCT, qui, on a quand même accueilli Brémus, et il y a une grande, grande période. Maintenant, je crois que ça va revenir, parce que le maître est un bon président, et qu'il a lui aussi très, très envie de remonter le RCT, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas dans un club, comme dans une carrière.
Voilà. Alors, vous parliez de votre ami Herrero, et forcément, c'est aussi l'art de la tchatche. Écoutez-le, là, on est le 31 octobre 1999. C'est lui qui commentait la demi-finale de la Coupe du Monde qui opposait la France à la Nouvelle-Zélande.
Ah, c'est extraordinaire ce qui vient de se passer en l'espace de quelques minutes. Un ballon porté au pied par Olivier Dagne. Olivier Dagne qui va le marquer. Non, c'est Bernard Sal qui va le marquer. Là,
Et c'est passé. Olivier Dagne et Philippe Bernard Sal en contre. J'apprends la boîte.
Extraordinaire. On nous saute dessus.
Extraordinaire. Les All Blacks à l'heure 22. T'as une combinaison un peu abracadabra. Le ballon est tombé. Olivier Mann a un grand coup de pied. Olivier Mann qui sort le turbo. Bernard Sal de 30 mètres qui le rejoint.
On est en finale de la Coupe du Monde.
Coupe de 99. Les Français sont en finale. Les All Blacks sont anéantis. Les Français sont en finale.
Eh ben voilà, on a bien compris, c'est gagné en 1999. Comment ça Vous êtes mort de rire, vous, là.
Mais oui, et puis ça me montre quelque chose de fort. C'est-à-dire qu'il y a dans le sport, il y a de l'action, mais il y a aussi du verbe.
Eh oui.
Et Daniel, il est un maître du verbe. Il adore le verbe. Il adore. Il invente presque des mots, tellement qu'il sait bien parler. Et donc, il y a toujours l'action, et puis après, il y a le commentaire de l'action. Et le commentaire de l'action, ça peut être absolument extraordinaire.
C'est un acteur qui joue avec les mots aussi, comme vous, en fait. Si vous, bon, sur scène et au théâtre et au cinéma, on est moins dans l'impro, ça forcément.
Oui, ça dépend des fois, ça dépend des films. Non, ça dépend des films, mais disons que non, c'est jouissif, en fait. Et il y a quelque chose. Il y a dans le sport, il y a une place pour le langage du sport. Et là, je les entends en ce moment, mais c'est un régal de voir à quel point. Vous, les journalistes, comment vous retombez en enfance, comment ça s'exalte sur un petit fleuret, sur une touche, sur une... Bon, c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça vraiment... C'est exactement ce qu'on fait nous aussi, puisque la vie, c'est l'action. Et puis le théâtre, c'est le commentaire de l'action. Ouais. Voilà, c'est pareil.
En tout cas, on sent à chaque fois votre plaisir. Alors là, on est le 2 mai 1987, Charles Berling. Alors, je ne sais pas si ce jour-là, vous étiez dans les tribunes du Parc des Princes ou devant votre télé. C'était le championnat de France de rugby qui opposait le RCT au Racing Club de France.
Et voilà, c'est fini. Là que le match a basculé.
Et voilà,
et Toulon est champion de France. Toulon est champion.
Toulon champion de France.
Bravo pour les Toulonnais.
Ah oui, bravo, depuis le temps qu'ils attendaient cela.
C'est une grande joie pour eux, on les comprend. Ils ont dominé le championnat, il faut le dire. Faut être honnête, même s'ils en sont vus dans quelques phases éliminatoires, dans l'ensemble de la saison, c'est vraiment le meilleur qui est champion aujourd'hui. Et au cours de ce match aussi, disons-le, car si le score paraît un petit peu réduit, 15 à 12, il faut dire que Toulon a dominé ce match et l'a bien mené comme il fallait.
Le deuxième titre de Toulon, alors que Philippe Guillard...
Mais la belle aventure du Racing.
Mais fin donc ce match à la belle aventure du Racing. Mais saluons la victoire de Toulon, battue en finale en 48, en 68, en 71 et en 85, qui donne donc à la famille Herrero ce titre qu'elle mérite tant.
La famille Herrero, on y revient, le RCT qui oui, remporte. Aïe, 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 dit-il. En 87, vous vous souvenez, vous étiez là,
non,
vous étiez
oui,
où?
Je m'en souviens, mais j'étais pas au Parc des Princes, mais waouh.
Mais waouh.
Wow. Mais voyez ce qu'on entend. On entend Toulon. Et alors, c'est une ville qui a souffert, c'est une ville qui est meurtrie par certains aspects. Et à Toulon, le rugby, c'est une fierté parce qu'il y a eu des tels moments comme cela où, à ce moment-là, eh bien, ça s'appelle la dignité. On retrouve de la dignité. On en a marre d'être, je ne sais pas, parfois, c'est une ville qui a une mauvaise réputation ou qui a pu avoir des moments dans l'histoire difficiles. Et là, mais parce que moi, pour y vivre, je vous assure que les Toulonnais, ben, ils sont aussi bien qu'ailleurs. Ils sont pas du tout. Donc, ça fait plaisir de voir ça. Et on sent que ça fait ça. Là aussi, on peut faire un parallèle avec la culture, parce que moi, je croise beaucoup de gens à Toulon qui me disent merci, merci. Même certaines personnes qui vont pas venir au théâtre, ils sont contents parce qu'il y a un théâtre dans leur ville. Et là, c'est pareil. C'est le stade Mayol, qui est en plus un stade. Enfin, quand on connaît Félix Mayol, c'est remarquable de voir qu'un artiste aussi controversé et moqué à l'époque,
c'est
parfois,
ça, ouais.
Eh bien, se retrouve l'emblème même toulonnaise du rugby toulonnais. Je trouve ça extraordinaire.
Ouais, voilà. Quelle énergie vous trouvez à regarder ces rugbymen, ces athlètes ou pas, en tant que comédien? Est-ce que ça vous inspire dans votre façon de camper des personnages ou pas? Vous avez jamais joué un rôle, vous, de sportif, si ou pas, non?
Non, pas non. Beaucoup, non. Non. Si, qu'est-ce que j'avais? Si j'avais pu, peut-être. Si, je fais des fois des rôles de gens qui courent un peu. Parce que je fais pas mal de courses, quoi, à pied. Mais non, je ne crois pas me souvenir qu'on m'ait proposé. Mais j'aimerais beaucoup parce que je trouve que c'est très beau d'interpréter. Justement la souffrance. Hier, j'entendais, je ne sais plus quel athlète qui parlait de la souffrance nécessaire, si c'était la cycliste là, qui disait il y a une part de douleur en moi, et quand j'ai cette part de douleur, je sais que je suis au bon endroit. Si je la quitte, je me dis je ne force pas assez, donc je ne vais pas assez vite.
Ouais.
Et ça m'a beaucoup intéressé, parce qu'il y a quelque chose dans l'art qui est entre la joie et la douleur. Hier, je disais à Mandeleu-Lana Poule, je disais des textes de Camus qui disaient il faut considérer la lumière et il faut considérer l'ombre de la lumière, c'est-à-dire il faut considérer aussi la face noire des choses.
Ouais.
Et cette femme, cette athlète, elle parlait de ça avec beaucoup de... Ça m'a beaucoup intéressé, je trouvais que c'était très beau ce qu'elle disait, parce qu'il y a, toujours, et pour tout le monde c'est comme ça, pas de plaisir sans peine.
Ouais, pas de plaisir sans peine. Et en même temps, j'ai vu Charles Berling, vous aviez dit que si vous n'aviez pas été acteur, vous auriez été marin. Pas rugbyman, hein, mais marin.
Ah oui, marin, tout à fait.
Ah
parce
oui.
que les marins. Bah, absolument. Ça, c'est, j'aimerais bien un jour interpréter un marin. Parce que le marin, c'est pareil. C'est-à-dire, il va au bout, quoi. Il va au bout du monde, souvent.
Mais la souffrance encore, la solitude.
Il y a quelque chose. La mer. Qui est en face de moi, là, j'ai la chance de vivre au bord de la mer, la mer qui est en face de moi en ce moment, c'est un paradis comme aujourd'hui, ça peut devenir un enfer. C'est-à-dire que le même endroit géographique, il passe du paradis à l'enfer. Et ça, c'est pour ça très beau. Et donc, c'est pour ça que j'aurais aimé, oui, j'aurais pu être marin. J'adore... être en mer. J'adore le challenge que ça représente quand vous partez en mer, ben vous ne savez pas si vous revenez.
Ouais, ça c'est clair. Et d'ailleurs, vous avez navigué avec de nombreux skippers, mais aussi avec elle, Florence Artaud, petite fiancée de l'Atlantique.
Je n'ai aucun contact avec personne depuis les Açores. C'est toi qui m'apprends que je suis en tête.
Florence Artaud arrive 3 jours plus tard à Pointe-à-Pitre, le 18 novembre 1990. Après 14 jours, 10 heures et 8 minutes de navigation.
J'ai été vachement malade, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai même failli abandonner. Et puis je me suis dit non, je n'abandonnerai pas, j'ai jamais abandonné, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer.
La 4e route du Rhum est gagnée par Florence Artaud.
Et oui, première française à remporter la course du Rhum en 1990, vous l'avez connue, hein, Charles Berling. Hein.
Ah oui, j'ai fait des petites régates avec elle, là, Tour de Corse, des trucs comme ça. Et c'était une femme tout à fait remarquable. Et là, c'était quelle émotion en 90. Non, mais c'était extraordinaire. En plus, c'est une femme dans un milieu de marins, donc un peu macho,
c'est
au départ. Ça a un peu changé, heureusement, mais vraiment, là, elle, c'était un sacré numéro. Et puis vraiment, là aussi, je ne sais pas si vous avez lu son récit, quand elle raconte, quand elle est tombée à 15 000 nautiques du Cap Corse, là, elle est tombée à l'eau de son bateau. Elle se retrouve en pleine mer, il y a son bateau qui est sous pilote automatique et qui continue sa route. Et il y a son petit chat qui est dans le bateau, et elle sait qu'elle va mourir, et finalement elle est sauvée, mais elle pense qu'elle va mourir, mais c'est très beau ce qu'elle raconte.
Ouais.
Et donc ça montre que c'est des gens qui aiment aller au bout, qui aiment aller dans les
au bout de leur rêve aussi, limites, hein, et au bout de leur rêve aussi, ou de quelque chose qui a été prédestiné
de leur
aussi.
Rêve,
oui,
évidemment,
tout à fait.
Parce que
ouais.
Ah non, mais magnifique, là je suis très content, je vais pouvoir cet été, là en août, je vais rejoindre Roland Jourdain, là, qui a fait son bateau We Explore, il a fabriqué ça avec de la fibre de lin, parce que c'est biodégradable, donc il essaye de comprendre comment on peut faire des matières composites, mais plus respectueuses de la nature, et donc je vais rejoindre Roland pour aller faire Concarneau, Marseille, avec son magnifique catamaran, moi je suis ravi, dès que je peux monter sur un bateau, dès qu'il m'invite, Fabrice Amédéo va m'inviter aussi, là je suis très content. Donc, dès que j'ai 5 minutes, hop, je saute sur un bateau.
Pour terminer, d'ailleurs, je crois que les épreuves de voile des Jeux Olympiques se jouent en rade de Marseille, non ? Me semble-t-il.
Tout à fait.
Ah, voilà.
Mais là, moi, je n'y serai pas parce que je pars avec mon bateau, là.
Vous partez dans votre bateau.
Je vais suivre ça, ça va être super.
Charles Berling, pour terminer, un petit quiz pour savoir quel genre, quel esprit sportif vous êtes en tant que comédien. Alors, vous êtes plutôt sport collectif ou individuel ?
C'est compliqué.
Ah, pourquoi ?
Quand même sport collectif.
Quand même, pourquoi il quand même ?
Parce que j'aime beaucoup aussi le sport individuel, je trouve ça très beau. Moi, je pourrais m'identifier, par exemple, un marin, parfois c'est solitaire. Sur un bateau, c'est typique. Moi, j'adore faire du bateau tout seul. J'adore prendre mon bateau et être tout seul, mais j'adore aussi faire des régates où on est 10. C'est génial. Donc les deux me conviennent, mais au fond c'est faut aimer les deux.
Oui.
Faut savoir aussi avoir un peu de solitude.
L'essentiel pour vous, c'est de participer ou c'est de gagner ?
Participer.
Participer.
Oui. Mais enfin, participer en voulant gagner.
Ah bah voilà, sinon, j'attends toujours la suite.
C'est des défaitistes. Non, moi je participe, mais je participe pour gagner.
C'est ça.
En ce qui me concerne, parce qu'après, j'imagine que quelqu'un qui a 24 ans ou 25 ans et qui fait les JO et qui perd, et qui se dit, merde, dans 4 ans, est-ce que j'aurai encore l'occasion ? Bon, pour comprendre, moi, si je perds une régate ou si je perds un match de ping-pong, c'est... je m'en remets.
C'est quoi la beauté d'un geste pour vous, Charles Berling ?
Eh bien, justement, c'est la beauté d'un geste, ça serait de pouvoir magnifiquement perdre.
Magnifiquement perdre. Ah, c'est pas mal.
Mais oui, c'est possible parce que il y a un acharnement pour seulement gagner qui peut être moins beau que la beauté d'un perdant qui se bat et puis qui perd, mais qui perd avec loyauté, avec dignité, avec fair play. Je trouve ça magnifique.
Le magnifique
justement.
Perdant.
Il faut se battre pour vouloir gagner, mais après, il faut accepter qu'on peut perdre.
Ouais.
C'est comme au théâtre.
Ouais.
Dans le mot théâtre, il y a jeu. Et dans le sport pareil, c'est vraiment encore une fois ces deux points communs très forts.
Ouais.
Et dans le fait de jouer, il y a absolument la nécessité de pouvoir perdre ou de pouvoir gagner. Si vous êtes sûr de gagner, c'est plus un jeu.
ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup pour votre fougue, votre énergie. En tout cas, je vous sens très transportée. Je ne sais pas si c'est l'effet JO ou
avec
pas.
Avec plaisir. Moi, je suis comme tous les Français.
Bien.
Je ne boude pas mon plaisir.
Vous ne boudez pas votre plaisir. On l'a bien partagé avec vous et avec nos auditeurs. Merci beaucoup, Charles Berling.
Merci à vous.
Merci belle été à vous.
Merci.
Allez, de vive voix, c'est fini. Merci à toute l'équipe olympique. Sophie Janin à la réalisation, Mehdi Jaziri, Chloé Gomez à la rédaction. On se retrouve demain, bien sûr, à la même heure, avec Colombe Schneck, l'autrice du roman La tendresse du crawl. Avec elle, on va parler natation, émancipation et littérature dans De vive voix. Belle journée, bien sûr, à vous, à l'écoute de RFI. Et à demain.